Bon, allez, allez, bon. Alors, on est à la page 4. Je m'excuse, là, j'étais un petit peu en retard aujourd'hui. Alors, c'est ça. Page 4, ligne 42. On pourrait définir. Là, je vais essayer. OK. Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il vous plaît?
Oui. On récite les mantras, pas?
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Om
Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya.
Śrīla Prabhupāda ki jai.
Jai.
Alors, je cherche le 52. 52. On reprenait le 1.2, c'est ça?
La page 4.
Non, page 4, ligne 42.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
On pourrait définir la vérité absolue en d'autres mots, telle la réalité absolue. La réalité absolue qu'est Krishna. Comme on dit, Krishna est tout et tout est Krishna. Donc rien n'est jamais déconnecté de Krishna. Tout est connecté à Krishna. Tout, tout, tout sans exception. Comme il est dit, pas un brin d'herbe ne bouge sans la sanction, l'assentiment de Krishna. Srila Prabhupada disait que l'on peut comparer la vérité absolue à un diamant. Quand on regarde le diamant, on ne peut que le regarder selon autant d'angles que l'on veuille. Il demeure toujours le même diamant, mais de différents points de vue. Ignorer Krishna, c'est comme penser que le diamant que l'on tient dans ses mains est autre chose, tout sauf un diamant. Pourtant, il est sous notre nez. Et l'on spécule sur sa véritable nature. C'est ce que l'on appelle l'illusion ou Maya. Qu'est-ce que Maya? C'est croire en l'existence de quoi que ce soit sans sa relation avec Krishna. Pour un dévot, un habitué du service de dévotion, et plus il est habitué à servir Krishna, plus il est difficile de vivre sans respirer la relation même de tout ce qui existe en rapport avec Krishna, de ne pas, de par son absorption en amour de Krishna et du fait qu'il ait une connaissance poussée de Krishna, il ne peut que voir finalement qu'il y a un moyen de tout voir en relation avec Krishna. Il peut comprendre à quoi peut servir le monde matériel, à la fois pour oublier Krishna, mais tout autant pour le servir. Telle son option bien arrêtée. Tel est son désir, telle est sa réalité. Tout d'un coup, tout match avec la conscience de Krishna, dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest et entre. Les écritures brillent de tout leur feu et la vie ne respire que pour Krishna, tel qu'il se doit. L'aspirant dévot cherche toujours à parfaire son éducation. La Bhagavad Gita est parfaite à cet égard. Nous y trouvons une description du spiritualiste qui s'absorbe dans la vérité absolue. Nous citons donc le chapitre 6, verset 10. Yogi yunjita satantam atmanam raishis sthitaha ekaki yata chintatma nirasir aparigraha. Yogi, un spiritualiste, Yungjita doit s'absorber dans la conscience de Krishna, Satatam constamment, Atmanam lui-même par le corps, le mental et le soi, Rahasi dans un endroit solitaire, Stita étant situé, Ekaki seul, Yata Sita Atma, toujours très attentif à maîtriser le mental, Nirashi sans se laisser attirer par rien d'autre, Aparigraha, libre de tout sentiment de possession. Le spiritualiste doit se vouer corps et âme au suprême. Il lui faut vivre en un lieu solitaire, toujours rester maître de son mental et s'affranchir de tout désir et de tout sentiment de possession. Teneur et portée. La réalisation de Krishna comprend différents degrés. La réalisation du Brahman, celle du Paramatma et celle de la personne suprême. Être conscient de Krishna, c'est être pleinement engagé dans le service d'amour transcendantal du Seigneur. Ceux qui sont attachés au Brahman impersonnel ou à l'aspect localisé de l'âme suprême sont eux aussi de façon indirecte et incomplète conscients de Krishna, puisque le Brahman impersonnel est la radiance spirituelle de la personne suprême et le Paramatma, sa représentation partielle, omniprésente. On dira donc d'un homme directement conscient de Krishna qu'il est le plus avancé des spiritualistes car il sait ce que sont le Brahman et le Paramatma. Sa connaissance de la vérité absolue est parfaite, quand celle de l'impersonnaliste, pardon, et du yogi en méditation est imparfaite. Il est néanmoins conseillé ici à tous les spiritualistes de continuer avec constance dans leur voie respective, afin d'atteindre tôt ou tard la plus haute perfection. Le premier devoir du spiritualiste commande en effet d'absorber le mental en Krishna. Toujours penser à lui et ne jamais l'oublier, ne fût-ce qu'un instant. Cette concentration de l'esprit sur le suprême s'appelle samadhi ou extase méditative. Pour l'atteindre, on doit vivre dans la solitude et éviter toute distraction, rechercher les situations favorables et rejeter tout ce qui pourrait faire obstacle à la réalisation spirituelle. Ferme dans sa détermination, le spiritualiste doit en outre se défaire de la convoitise pour les biens matériels inutiles afin de ne pas rester prisonnier de son esprit de possession. Quand on pratique directement la conscience de Krishna, toutes ces précautions sont naturellement prises, attendu que le bhakti yoga implique une abnégation de soi qui laisse très peu de chance à l'esprit de possession de se manifester. Srila Upad Goswami dit à ce propos: Anashak Tashya Vishayan Yatarham Upayun Jataha Nirbandaha Krishna Sambadye Yuktam Veragyam Ushate Prapan Shikataya Buddhya Hari Sambandhi Vashtuna Mumukshubi Paritiago Veryajam Falgu Katyate. Celui qui n'est attaché à rien, mais qui en même temps accepte tout pour le service de Krishna, transcende vraiment l'esprit de possession. Au contraire, le renoncement de celui qui rejette tout parce qu'il ignore qu'un lien unit toute chose au Seigneur sera toujours incomplet. Bhakti Rachamrita Sindhu 1.2.255-256. Parce qu'il sait que Dieu est le véritable possesseur de tout, le dévot de Krishna s'affranchit sans difficulté du sentiment de possession. Il ne recherche jamais un quelconque bénéfice personnel, mais sait accepter tout ce qui est favorable à la conscience de Krishna et rejeter ce qui pourrait lui nuire. Toujours situé à un niveau purement spirituel, il transcende la matière et vit en solitaire, n'ayant aucun goût pour la compagnie des personnes qui refusent la conscience de Krishna. C'est pourquoi il est le parfait yogi. Dans la conscience de Krishna, le dévot n'a qu'à syntoniser Krishna 24 sur 7. Krishna est un monde 24 sur 7. Le dévot peut ainsi y trouver son comble.
Ouais, merci beaucoup.
Avec Krishna.
Allez, elle est bonne.
Allez, allez, allez.
Om Gyanati Mirandasya Gnanjana Sadakaya Chaksun Unmilitam Yena Tasmai Shri Rave Namaha Shri Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, ce qui est intéressant, ça a été lu ici. À un moment donné, c'est dit, qu'est-ce que la conscience de Krishna? Et la réponse est, c'est d'être engagé complètement au service de dévotion offert à Krishna. Et ça, c'est la mentalité d'un dévot. Et pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui est à la base de cette mentalité-là? Pourquoi est-ce qu'un dévot veut être absorbé pleinement dans le service de dévotion offert à Krishna? Qu'est-ce qui est à la base de la compréhension philosophique de ça? Attends, t'entends pas?
Le bonheur se trouve dedans, dans la conscience de Krishna. Le but de la vérité totale, veut dire de ne pas perdre son temps, la chose qu'on donne ici sur la terre, n'importe quoi d'autre, c'est une perte de temps.
Ok, ça c'est une réponse. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça?
Krishna est tout. Quand le dévot sait que Krishna est tout et est partout, donc on s'engage au service du Seigneur suprême qui est tout et partout, puisque c'est notre devoir en fait, c'est notre but et c'est notre devoir de servir Krishna puisqu'il est tout et partout.
Ok, ça c'est une réponse. À la base, base, base. Supposons que je sais tout ça, mais je ne m'engage pas au service de Krishna. Quelle est la faute? C'est la même question.
L'absence de maîtrise, l'absence de contrôle ou l'absence d'amour absolu pour Krishna aussi. Ça
Ouais.
peut avoir plusieurs causes. L'absence une maîtrise incomplète de ses sens, donc
l'absence de pureté,
voilà aussi.
L'absence de pureté. Mais pourquoi on dit que c'est l'absence de pureté? Quelqu'un peut dire, ben moi, je ne tue pas, je ne fume pas, je mène une
la
bonne
foi.
Vie.
La foi et l'abandon. Il faut avoir un minimum de foi.
Mais en quoi faut mettre la foi? La foi nous ramènera toujours à la base. Pourquoi servir Krishna?
C'est la seule façon de se libérer de cette emprise matérielle, c'est de voir la vérité, et puis la vérité, c'est Krishna.
D'accord. Mais Krishna, il est quoi, là? Pourquoi on est
Il est
obligé
tout.
de le servir?
Il est tout. Parce que si qu'on sert, on sert d'autres choses, on sert toujours Krishna. Si on n'en prend pas conscience, on est dans le brume.
Bon, exactement.
Si on est conscient de Krishna, on est dans la vérité, la bonne voie.
Il y a quelque chose à la base qui est essentiel. On sent Krishna parce que, toi, tu vois, parce que Krishna possède tout. Il est le propriétaire de tout ce qui existe. On l'a lu, ça?
Le contrôleur suprême.
Le contrôleur suprême, mais il possède tout. Alors, comme c'est dit ici, à la page 6, dernier paragraphe de teneur reportée, parce qu'il sait que Dieu est le véritable possesseur de tout, le dévot de Krishna s'affranchit sans difficulté du sentiment de possession. Alors, la Bhagavad Gita, il y a le verset qui a été lu, chapitre 6, c'est dit, le spiritualiste doit se vouer corps et âme au suprême. Il lui faut vivre en un lieu solitaire, toujours rester maître de son mental et s'affranchir de tout désir et de tout sentiment de possession. Alors ça, c'est chapitre 6, Bhagavad Gita, c'est beau. C'est parfait, mais on sait aussi que Arjuna a rejeté le chapitre 6. Il dit, ah, pour moi, c'est impossible. C'est aussi difficile que d'essayer de contrôler le vent déchaîné. C'est difficile. Mais en théorie, c'est super, c'est parfait, mais l'application de cela, ça, c'est une autre affaire, une autre chose. Alors, Prabhupada dit, dans le Chaitanya Charitamrita, une teneur importée, au tout début, Prabhupada dit, le service de dévotion est pratiqué en deux volets. Et ici, le même concept est dans ce dernier paragraphe, la teneur importée. Alors, quels sont ces deux volets? C'est qu'il y a un volet, il faut accepter qu'est-ce qui est favorable pour le service de dévotion. Et deuxième volet, il faut rejeter tout ce qui est défavorable pour le service de dévotion. C'est en deux volets. Alors, mais pourquoi? Ben, parce que la réalité, c'est que Krishna est toujours le possesseur suprême. Le bénéficiaire suprême, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, chapitre 5, verset 29, le dernier verset de la Bhagavad Gita, que Krishna est le possesseur de toutes les planètes qui puissent exister. Sarva Loka Maheshwaram. Il est le maître de toutes les planètes et il est le bénéficiaire de tous les sacrifices. Toutes les œuvres de charité et toutes les austérités qui pourraient être accomplies, c'est Krishna qui est le bénéficiaire. Alors, un dévot, il doit accepter cette réalité-là et il l'accepte de bon cœur. C'est ça qui fait la différence entre un dévot et un non-dévot. C'est que le non-dévot n'a pas cette conscience-là. Et un dévot, oui. Alors, ça change tout par rapport à la vie entre le non-dévot et le dévot. Et le dévot, comment on peut dire, il arrange sa vie en fonction de ce concept-là, à savoir que Krishna est le bénéficiaire et le propriétaire. Et Krishna dit aussi qu'il est l'ami Suridam Sarvabhutanam. Il est l'ami et bienfaiteur de tous les êtres vivants. Ça, c'est Krishna. Alors, le dévot modèle sa vie en fonction de ça, de Krishna. Alors, comme tel, comment se sent le dévot? S'il sent que tout appartient à Krishna, est-ce que ça inclut sa propre personne? Évidemment, ça inclut sa propre personne. C'est pas juste un concept philosophique, ah, c'est bon pour les autres, ou peut-être qu'on peut changer d'idée. Il est inclus là-dedans. Alors, si le dévot s'absorbe dans cette mentalité et, justement, il fait des actions pratiques, c'est-à-dire du service de dévotion, sous la directive d'un maître spirituel authentique, sa vie est parfaite. Et il est éligible pour retourner à Krishna parce que dans le monde spirituel, c'est juste cette mentalité-là qui prévaut. Il n'y a pas de mentalité, attachée aux fruits des actions. Il n'y en a pas de ça dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tous les êtres, quels qu'ils soient, sont absorbés justement à chercher à faire plaisir à Krishna, en se mettant au service des autres dévots de Krishna. Tout le monde est dans cette mentalité-là. Alors, un dévot, s'il veut plaire à Krishna, il y a une autre façon bien simple aussi. Et comme Krishna dit, celui qui dit qu'il est mon dévot n'est pas mon dévot. Mais celui qui dit qu'il est le dévot de mon dévot, celui-là est mon dévot. C'est ce que Krishna dit. Alors, la mentalité d'un dévot, c'est d'être toujours absorbé à chercher à faire plaisir à Krishna en cherchant à servir et faire plaisir aux autres dévots. Et Krishna lui-même a cette mentalité-là. Comme Krishna dit, quand je viens pour faire plaisir aux dévots et anéantir les mécréants. Alors, Krishna a cette mentalité-là, et ses dévots aussi. Et ça, c'est extra. Et qu'est-ce que vous voulez de mieux de ça? Et tout le monde est serviteur de tout le monde. Et tout le monde se fait un plaisir de rendre service à tout le monde. C'est le contraire de la mentalité matérialiste où tout le monde essaie d'être le maître de tout le monde. Personne ne veut être serviteur de tout le monde. Tout le monde veut dominer et personne ne veut être dominé. Alors ça, c'est l'enfer. Alors, quelqu'un qui fonctionne avec une mentalité comme ça, il s'en rend même pas compte. Il est enfermé dans une coquille d'ignorance et en plus, la loi du karma, c'est que chaque pas qu'il fait, chaque action qu'il fait, va avoir une réaction, que ce soit bon ou mauvais. Et quel est le plus grand bonheur matériel qu'il puisse arriver à un matérialiste? Quel est le plus grand bonheur auquel il peut arriver?
D'être conscient de Krishna, ça c'est le plus grand bonheur qui peut y arriver.
Non, ça c'est un spiritualiste.
Ah,
on parle d'un matérialiste.
Mais pour son bien et son évolution, je dirais perdre tous ses biens matériels.
Le plus haut qui peut se rendre.
Ah, le plus haut, ok. Je pensais dans le sens pour... le plus haut, ben, c'est posséder le plus possible, toujours plus posséder en fait. Dans toutes les sphères de la vie, que ce soit assouvir des désirs ou avoir des possessions matérielles ou...
Oui, tant qu'à être dans cette mentalité-là, pourquoi ne pas aller au plus haut? Qui est?
Dominer le monde.
Pardon?
Brahma?
Être élevé aux planètes
éthéniques.
OK.
Ça, c'est le plus haut qui peut aller. Et si on veut un peu plus haut, se fondre dans le Brahma Jyoti, et laquelle position n'est pas permanente, il va redescendre à un moment donné de cette position-là. Alors, c'est un, comment on dit ça en anglais, on dit merry-go-round. C'est la roue qui tourne.
Mm-hmm.
Et tantôt t'es en haut, et après être en haut, tu vas redescendre jusqu'au plus bas, et ensuite tu vas remonter jusqu'au plus haut. C'est une vie qui est une vie justement malheureuse, même si ça n'a pas l'air, pour le simple fait qu'il manque le principal, c'est-à-dire Krishna. Alors, la vie matérielle, c'est moi, 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 et ce qui est à moi, ce qui est à moi, ce qui est à moi, et ce que j'ai, et ce que je vais faire, ce que j'aurai, et ce que j'ai maintenant, je vais en avoir encore plus dans le futur. Et puis, ça tourne autour de l'ego, de moi, 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 le faux ego. Alors, comme Krishna dit à Arjuna, s'il ne combat pas, qu'est-ce qui arrive? Alors Krishna lui dit, égaré par le faux ego. Ça, c'est la position de quelqu'un qui n'est pas conscient de Krishna ou n'est pas suffisamment conscient de Krishna. En fait, sa conscience de Krishna est déficiente. Alors, la conscience de Krishna Elle est toujours là, mais il faut savoir se connecter. Si, par exemple, un dévot, ou pour une raison ou pour une autre, réalise qu'il s'est écarté de la voie de la conscience de Krishna, qu'est-ce qui l'empêche de revenir à la conscience de Krishna? C'est quoi la réponse?
D'être hypnotisé par la matière, c'est le, ils perdent la réalité, ils voient que la matière brille à place que la lumière brille.
D'accord.
Il est dans le brume.
Oui. Et qu'est-ce qui peut l'empêcher de revenir? La réponse?
Son faux ego? Son manque d'humilité, peut-être?
La réponse est toute simple. Il n'y a rien qui peut l'empêcher.
Ah ben, voilà. On se creusait la tête pour rien, en fait.
Il n'y a rien qui peut l'empêcher. C'est une question de désir.
Et de volonté aussi.
Alors, si le dévot a le désir, il peut toujours revenir n'importe quand. Alors, comme c'est dit ici à la fin, dans la conscience de Krishna, le dévot n'a qu'à s'intoniser Krishna 24 sur 7. Krishna est en onde 24 sur 7. Le dévot peut ainsi y trouver son comble. Mais ça, ça a l'air juste la théorie, mais ça n'est pas juste la théorie. C'est en plein ça. Alors, comment le dévot syntonise Krishna? Entre guillemets, là, syntoniser Krishna, comment?
Par le chant, par l'écoute, par la pratique, par le fait de rester toujours en connexion avec Krishna, par l'interaction avec d'autres dévots.
C'est tout ça. Mais principalement par le chant des saints noms. Alors, l'oubli de Krishna, c'est l'arrêt ou la suspension du chant des saints noms. Pour une raison ou pour une autre. Mais il faut qu'un dévot soit toujours absorbé dans le chant des saints noms ou écouter quelqu'un d'autre qui chante le saint nom aussi, comme écouter un pur dévot de Krishna, Srila Prabhupada, qui chante bhajan ou kirtan. Mais il faut que le dévot soit absorbé dans les saints noms. Ou écouter Krishna Katha, ce qui a trait à Krishna, les divertissements de Krishna, la philosophie, la Bhagavad Gita, le livre de Krishna en particulier. Et dévot et collecte, ils vont être concernés à Krishna. Alors, la grâce de Krishna, c'est que Krishna, disons, permet aux dévots d'être conscients de Krishna. Alors, qui est le plus grand dévot de Krishna?
Shiva. Shiva.
Y a-t-il quelqu'un d'autre?
Brahma? Non?
Non.
Je sais pas. J'allais dire Shiva aussi, mais...
Mon épouse est à côté de moi et elle a dit Chaitanya. Et c'est en plein ça.
Oui.
Il n'y a pas plus grand dévot de Krishna que Chaitanya. Alors, le Seigneur Chaitanya, quand on étudie ses divertissements, qu'est-ce qu'il voulait et qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur Chaitanya? Dès son enfance, dès sa tendre enfance, disons si on peut dire, dès qu'il était bébé dans le berceau, que faisait le Seigneur Chaitanya?
Cherchait Krishna tout le temps.
Pardon?
Cherchait Krishna tout le temps.
Non, il l'avait déjà. C'était lui-même Krishna. Il n'y a pas besoin de chercher, là. C'est Krishna lui-même, Seigneur Chaitanya. Il n'y a pas besoin de chercher, là. Il est lui-même Krishna. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Et le Seigneur Chaitanya était très intelligent et, si on peut dire, très humain, mais pas humain ordinaire. C'est humain, pleinement conscient. On ne peut pas comparer à un être ordinaire, un bébé ordinaire. Mais le Seigneur Chaitanya, qu'est-ce qu'il faisait? Et les femmes qui l'entouraient ou qui venaient à la maison chez ses parents ont compris, disons, le jeu du Seigneur Chaitanya. Qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur Chaitanya? Alors, le Seigneur Chaitanya pleurait quand ça n'allait pas à son goût. Et là, les femmes se sont rendues compte que si elles chantent les saints noms, il va arrêter de pleurer. Alors, et lui, quand il voulait qu'elle chante, ben, il se mettait à pleurer. Puis les femmes de leur côté se mettaient à chanter les saints noms. Puis là, ça le pacifiait. Et ça allait comme ça. Alors, quand le Seigneur Chaitanya est apparu sur terre, c'était la même chose. Dès le départ, le Seigneur Chaitanya est apparu à l'occasion d'une éclipse, une pleine éclipse lunaire, si je me souviens bien. C'est soit solaire, lunaire, je pense que c'est lunaire. Et quand il y a une éclipse, les gens, en général, vont se baigner dans le Gange et récitent les mantras, et récitent les saints noms. Alors, quand le Seigneur Chaitanya est venu, c'est en plein ça qui est arrivé, et tout le monde chantait les saints noms, et le Seigneur Chaitanya est venu en ce monde, est apparu en ce monde. Alors, ça, c'est, disons, ce que le Seigneur Chaitanya voulait, que le monde entier chante les saints noms de Krishna. Et toute sa vie, c'est ça essentiellement, c'est propager le chant des saints noms de Krishna. Alors, Seigneur Chaitanya, à un moment donné, il y avait ses compagnons qui venaient chez lui et qui chantaient, et ça faisait du bruit parce que quand il y avait Sankirtan, c'était très fort. Le bruit que ça pouvait faire. Et Seigneur Chaitanya, lui, ça faisait son affaire, là. C'était l'extase. Seigneur Chaitanya chantait, dansait. On dit, il y avait les symptômes, même chanter, se rouler par terre, qui était vraiment comme incompréhensible pour les gens ordinaires. Et pas juste lui, d'autres dévots aussi. Alors, Seigneur Chaitanya, à un moment donné, parce que les gens ont été se plaindre, c'est les brahmanas, ce qu'on appelle les smarta brahmanas. C'est en sanskrit smarta, mais c'est comme en anglais des smart. C'est pratiquement pareil. Smart brahmins, là. Les brahmins qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout, qui connaissent tout et qui possèdent la maîtrise des principes qu'il faut suivre, etc. Alors, ils étaient pas contents du déploiement de Sankirtan, Seigneur Chaitanya. Alors, ils sont allés se plaindre au Qazi, le gouverneur de la province, pour qu'il interdise le mouvement de Sankirtan. Alors, à un moment donné, le Seigneur Chaitanya, et ça, c'est venu aux oreilles du Seigneur Chaitanya, les dévots sont venus se plaindre au Seigneur Chaitanya que le Qazi veut nous empêcher. Il nous a interdit de chanter. Alors, Seigneur Chaitanya répond en disant, on va voir s'il va être capable de nous interdire. Alors, Seigneur Chaitanya a organisé trois groupes de dévots pour faire le Sankirtan, et chaque groupe était composé de 21 dévots. Et là-dedans, il y avait, dans les 21, il y a quatre dévots qui jouent du mridanga, un dévot qui lead le kirtan, et les autres jouent des kartals. Alors imaginez le bruit que ça peut faire avec 16 dévots qui jouent des kartals, un dévot qui chante et quatre joueurs de mridanga multipliés par 3. Ça veut dire 3 fois 24, ça fait 72. Alors, 72 dévots comme ça. Alors, le Seigneur Chaitanya, quand il a pris son groupe de ses groupes de Sankirtan, ils sont allés partout dans la ville. Puis là, finalement, ils sont venus à la maison du Kazi. Et là, le Kazi, lui, il voulait même pas sortir dehors parce qu'il avait trop peur. Et là, il y avait des dévots dans ces groupes-là qui étaient agités de colère. Et le Seigneur Chaitanya, dans tout ce tapage, est allé à la porte du Seigneur de Kazi, du Kazi, s'asseoir et parler avec le Kazi. Fait que là, il demande, le Kazi vient le voir. Le Seigneur Chaitanya est là. Le Seigneur Chaitanya n'était pas en colère, lui. Il pouvait avoir d'autres dévots qui étaient en colère, mais pas lui. Lui, il demeurait toujours dans son esprit calme, apaisé. Et il voulait faire comprendre au Kazi, Prabhupada explique, par la raison et la logique, faire comprendre l'importance du mouvement de Sankirtan. Saint Chaitanya a commencé la discussion avec le Kazi. Puis là, il dit au Kazi, parce que le Kazi avait déjà brisé un mridanga d'un dévot auparavant. Et puis, il lui demande, mais comment ça se fait que vous avez déjà brisé un mridanga, vous avez déjà donné l'interdiction de chanter en congrégation, puis là, cette fois-ci, vous nous laissez faire. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, Kazi répond au Seigneur Chaitanya une réponse assez spéciale, merci. C'est que le Kazi répond que il a eu un rêve. Et dans le rêve, il y avait un être qui a monté sur lui, qui avait une tête de lion, qui avait une forme mi-humaine, tête de lion, qui avait des griffes et qui s'est mis qui a posé ses griffes sur sa poitrine et qui l'a griffé. Il dit qu'il a eu très peur et qu'il faisait un bruit effrayant. Alors, c'est comique dans le fond. C'est le Seigneur Nrisimhadev qui est venu régler le compte du Kazi. Et le Kazi, à ce moment-là, a montré au Seigneur Chaitanya les traces de griffes qu'il avait sur la poitrine. Et tout le monde ont cru que tous ceux qui étaient témoins de cette conversation-là ont cru, ont accepté l'histoire du Kazi, que c'était pas, disons, comment on peut dire, un truc monté, mais que c'était vraiment la réalité, la vérité. Et le Seigneur Chaitanya demande au Kazi d'avoir la permission dorénavant que dans la ville de Nadia, que jamais il n'y aura d'interdiction de chanter en Sankirtan. Alors le Kazi, il a déclaré que il a donné une instruction à tous les descendants après lui de ne jamais interdire le Sankirtan dans la ville de Nadia. Alors, Seigneur Chaitanya dit, au moins dans la ville de Nadia, ne jamais interdire le Sankirtan. Alors, quand on va en Inde, si on va justement à Mayapur et à Nadia, et il y aura jamais d'interdiction. Et même les descendants du Kazi, même aujourd'hui, suivent ce désir, cette instruction du Nadia de ne jamais interdire le Sankirtan. Alors, qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça? Alors, c'est extra, c'est super. Et c'est comme ça que le Seigneur Chaitanya a vraiment démarré le mouvement de Sankirtan pour l'âge de Kali. Alors, sa vie même, c'est un encouragement à chanter les saints noms. Et puis, lui-même faisait des Sankirtan et il y avait beaucoup de monde qui venait pour le chant des saints noms. Alors, ça, c'est extra, extra. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on va continuer, si vous voulez bien, au point 1.3. Ananda, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Alors, 1.3. Le brahman en constitue l'aspect le plus facilement accessible aux spiritualistes néophytes. Qu'est-il entendu par spiritualiste néophyte? Le spiritualiste néophyte est cette personne qui, par réalisation, arrive à la frontière du matérialisme. Il a tout essayé, ou du moins a compris qu'il n'est d'ores et déjà pas tout à fait nécessaire de goûter à tout dans le monde matériel, car en bout de ligne, la conclusion de toute entreprise matérielle est toujours aussi décevante, zéro satisfaction durable. On ne met pas en cause la satisfaction, mais la permanence de la dite satisfaction. La satisfaction permanente ne se trouve pas sur le plan matériel du fait de notre constitution d'âme spirituelle. On peut se leurrer en intoxication de toutes sortes, grossières et subtiles, mais le résultat sera toujours le même. Le vide d'un cœur assoiffé de permanence, bref, ni plus ni moins d'éternité. Malheureusement, zéro substance plus zéro substance égale toujours zéro substance. À défaut de cette réalisation, on pourra toujours s'entêter et oser persévérer contre vents et marées à trouver un bonheur permanent en quelques recoins de l'univers. Donc notre spiritualiste en herbe, ou pas après tout, pourra toujours s'intéresser aux démarches qui visent au-delà de la juridiction des plaisirs matériels grossiers. À défaut de connaître mieux vaut l'attrait philosophique de « je ne sais pas quoi, mais plus sublime que tout », la lumière, le brahman, le nirvana, dit-on. Mes prochaines étapes, qui a-t-il au-delà de la lumière et compagnie? Il l'ignore. Pour l'instant, c'est la lumière qui compte. De quelle lumière s'agit-il? De quelle lumière s'agit-il? Il pourra toujours chercher. Et par la grâce de Krishna, il finira bien un jour par trouver. Pour l'instant, il est, Dieu merci, en tentative d'orbite au-delà du matérialisme. C'est déjà ça. Mais peu importe, tant que son cœur n'aura pas trouvé tout ce qu'il aspire du fond de son fond, il restera en appétit tout en tentant d'aller jusqu'au bout malgré tout. Mais il ne le sait pas encore quand son sort, comme toujours, demeure entre les mains de Krishna pour le bénir en temps et lieu d'une rencontre d'une rencontre d'un pur dévot du Seigneur qui sera capable de tout débroussailler pour lui. Pardon. À la lumière, cette fois, de la connaissance spirituelle et absolue, s'amorcera pour lui son empreinte définitive de la voie qui le mènera au-delà de l'emprise de l'énergie illusoire du Seigneur. Son cœur sera comblé à saisir l'opportunité de s'absorber pleinement dans le service de dévotion sous directive adéquate. Petit à petit, il finira par aspirer au pur service de dévotion. Il comprendra tout ce qu'il faut savoir, autant sur la vie matérielle que spirituelle, laquelle peut être tout aussi tangible que tout ce qu'il aurait vécu auparavant, mais avec la seule différence que cette dernière est fructueuse en connaissance, éternité et félicité. Il sait que la libération l'attend, mais il n'est pas pressé. La lumière du Brahman impersonnel n'est pas importante. C'est la source du Brahman qui l'est. Pour l'instant et pour toujours, il n'y a que le service de dévotion pur, immotivé et ininterrompu qu'il espère atteindre un jour ou l'autre. Cette absorption est satisfaisante en soi. Le meilleur est à venir à partir du moment où il connaîtra pour vrai ce qu'est l'amour extatique de Dieu, la personne suprême, Shri Krishna. À partir de ce moment, tout ira en s'améliorant pour lui.
Jai, merci beaucoup.
Jai.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Mais j'aime bien comment ça commence un petit peu ce paragraphe en faisant le point sur vraiment qu'est-ce qui empêche, entre guillemets, le passage, ben un peu expliquer qu'est-ce qui est le spiritualiste néophyte. Et vers la fin, c'est très, je trouve, motivant d'avoir ce petit paragraphe à la fin qui, voilà, à partir de ce moment, tout ira en s'améliorant pour lui. Ça finit bien, je trouve. Voilà.
Oui, effectivement. Et comme on dit, la lumière au bout du tunnel, là.
Ça.
Mais disons que le tunnel n'est pas juste noir, noir, noir. Au moins, la lumière, même dans le tunnel, la voie est lumineuse. Et s'il n'y a pas le service de dévotion, il n'y a pas beaucoup d'espoir, là. C'est l'obscurité. Mais malheureusement, les gens dans la vie matérielle, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de la réalité du service de dévotion. Alors, la grâce de Krishna, à la lumière de ce qui vient d'être lu, la grâce de Krishna se manifeste comment? Comment est-ce que la grâce de Krishna se manifeste?
En nous donnant un peu d'intelligence pour comprendre ça, qui elle est dans notre vie.
Ça, c'est une chose. Mais d'après ce qu'on vient de lire, là.
Ben, Krishna nous donne la lumière, en fait, ce que je
plus
vois.
Que ça.
Ah, il nous donne la bénédiction de rencontrer un pur dévot.
Exactement. Alors, c'est dit ici, la ligne 24. Mais il ne le sait pas encore que son sort, comme toujours, demeure entre les mains de Krishna pour le bénir en temps et lieu d'une rencontre d'un pur dévot du Seigneur qui sera capable de tout débroussailler pour lui. Ça, c'est... Donc, si on peut dire, là, je vais dire une mauvaise exemple, là, mais quand même, ça vaut la peine de le dire. Quand tout le monde a joué aux cartes dans sa vie, là, en tout cas, il y a bien du monde qui joue aux cartes. Alors, quand vous avez votre jeu dans vos mains en jouant aux cartes, les cartes les plus intéressantes d'avoir, ce sont
Les as.
Les as. Alors, Krishna a toujours cet as dans sa main, à savoir de donner à une âme sincère qui cherche, en fait, qui cherche Krishna, mais qui peut-être ne le sait pas. Alors, Krishna a cet as réservé de donner l'association d'un pur dévot. Parce que Krishna sait, avec l'association d'un pur dévot, pour guider l'âme conditionnée, qui est vraiment sincère, va faire le bon choix. Et va vouloir se laisser guider et accepter cette direction d'un pur dévot de Krishna. Et comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna, essaie d'apprendre la vérité en approchant un maître spirituel, L'âme réalisée peut te donner le savoir parce qu'elle a vu la vérité. Alors, ça c'est très important. Alors, quel genre de maître spirituel on devrait accepter?
Celui qui a vu la vérité, la lumière.
Oui, et ce genre de dévot-là, c'est un dévot qu'on catégorise, si on peut dire. Pardon?
Swami.
Il y en a des tonnes de Swami, là. Même les impersonnalistes m'avaient dit, il y en a encore plus de Swami.
OK, donc c'est pas...
Alors, quel genre de maître spirituel qu'on devrait accepter? Un pur dévot, une âme réalisée, ce qu'on appelle Uttama Adhikari. Alors, Uttama veut dire qu'il est au-delà de l'ignorance. Uttama. Alors, ce genre de maître spirituel, comme Krishna dit, pourquoi? Parce qu'il a vu la vérité. Alors, si on parle de Srila Prabhupada, on parle des grands maîtres spirituels là, qui sont des âmes réalisées comme Srila Prabhupada, son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Bhaktivinoda Thakur. Si on n'a pas ces dévots-là qui sont en mesure de nous expliquer les moindres détails sur lesquels on voudrait savoir quelque chose, ça serait difficile de comprendre. Alors, comme par exemple les enseignements de Srila Prabhupada, Prabhupada a des livres et des livres et des livres qui parlent de Krishna, qui parlent du service de dévotion. Et comme Prabhupada dit, il y a beaucoup de gens qui ont fait des commentaires sur le Vedanta Sutra, qui ont fait des commentaires sur la Bhagavad Gita. Mais Prabhupada dit, en ce qui concerne la Bhagavad Gita, il dit, je pourrais pas en recommander un seul parce qu'ils sont en train de mêler la Bhagavad Gita avec leurs propres idées. Alors, dans la vie matérielle, là, c'est que tout le monde est un cowboy philosophique. Et c'est comme le cowboy qui est dans le Far West. Il peut aller n'importe où, il peut faire ce qu'il veut. Pourvu qu'il y ait un revolver, là, il peut faire ce qu'il veut. Alors, dans le Far West philosophique, il y a toutes sortes de philosophies, et c'est difficile de s'y reconnaître. Mais avec un pur dévot de Krishna, juste écouter, c'est suffisant. Alors, comme Prabhupada dit, il écrit en quelque part, Prabhupada, il écrit que c'est plus important d'écouter que de lire et étudier les Écritures, mettons. C'est plus important d'écouter un dévot, un pur dévot de Krishna. Alors, comment est-ce qu'on commençait les livres de Srila Prabhupada? Comment est-ce qu'ils ont commencé?
Avec un petit pamphlet, Go Back to Godhead.
Oui, il y a ça. Mais disons, les livres, on va être un peu plus spécifique, là. Comment est-ce que Prabhupada produisait ses livres?
Il ramassait un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il y avait comme argent? Il allait faire des printings, il allait les imprimer au fur et à mesure.
Ça, c'est correct. Mais ça, c'est la deuxième étape. On parle de les produire dans le sens, on part de zéro, là. Comment est-ce que Prabhupada faisait ses livres?
La nuit, il écrivait toute la nuit.
Non, il n'écrivait pas toute la nuit.
Ben, il se réveillait à 2 heures puis il commençait à écrire.
Non, il n'écrivait pas.
Il s'enregistrait avec
C'était avec le dictaphone.
Dictaphone, c'est ça. Voilà, je cherchais le
Prabhupada dictait. Et c'est d'autres dévots Les secrétaires avaient un dévot dédié à ça, de prendre ce que Prabhupada avait dicté et lui le taper. C'est comme ça que Prabhupada a réussi à produire des livres. Et ça, c'était... Comment est-ce que Prabhupada en est venu à cette étape-là? C'est parce qu'il y avait un disciple qui s'appelait Pradyumna qui a suggéré à Prabhupada, justement, au lieu de taper, pourquoi pas dicter? Et nous, on va charger, justement, de taper des textes. Alors, Prabhupada a accepté cette idée-là, et après, Prabhupada ne faisait que de la dicter et non taper les livres. Alors, mais quand même, essayez d'imaginer avec quelle, disons, justesse, précision et perfection que Prabhupada dictait ses livres, c'était pratiquement bon du premier coup. Ça prend une âme réalisée, une âme libérée, qui n'est pas sujet aux quatre imperfections des âmes conditionnées, là. Alors, ça veut dire qu'il ne fait pas d'erreur. C'est un des défauts des âmes conditionnées, qui n'est pas sujet à l'illusion, qui n'a pas de tendance à tromper autrui. Alors, libéré de ces imperfections-là, il y en a un autre qui m'échappe, là. Alors, Prabhupada était ce genre d'âme libérée-là. Il pouvait le faire. Et il le faisait, et les livres se sont enchaînés un après l'autre par la grâce de Krishna, par la bénédiction de son maître spirituel aussi, et ainsi de suite. Alors, comme Prabhupada dit, ça, j'ai lu ça il y a quelques jours de ça, Prabhupada qui dit, c'est plus important d'écouter que même de lire ou d'écouter ce qui a trait à Krishna. Alors, c'est comme, par exemple, on fait des cours. Alors, en ce qui me concerne, je peux lire, c'est sûr que je vais lire, et je dois lire, mais, si on peut dire entre guillemets, la perfection d'avoir lu, c'est d'être capable de le redire à quelqu'un d'autre. De le dire à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le message est entré, il y a quelque chose qui est resté et qu'on peut le dire à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Écouter ce qui a trait à Krishna, parler de Krishna, et se souvenir de Krishna. Et ça, c'est la perfection. Alors, quelqu'un peut dire, peut douter de ça, mais comme on a lu là, le dévot est bien situé, il est sur une bonne voie qui va l'amener justement à la perfection éventuellement. Et les dévots de Krishna, ils ont tous une complicité entre eux autres. Tous les dévots, peu importe. Ils ont une complicité universelle. Alors, quand on parle de complicité, on peut dire que ils ont quelque chose qu'ils recherchent tous autant l'un que l'autre. C'est quoi?
Comment servir Krishna?
Oui.
Comment plaire au maître spirituel aussi?
Oui, et ça. Une autre façon de le dire. Tout ça, c'est bon. Bonne réponse. La réponse, c'est tout le monde veut Krishna. Tout le monde sont après Krishna. Alors, est-ce que c'est clair? Tous les dévots de Krishna ont ça en commun. C'est Krishna. Alors, comme les disciples de Śrīla Bhaktisiddhānta, J'en connais pas beaucoup, à part Śrīla Bhaktisiddhanta lui-même. Et je sais pas qui, y a pas de dévot particulier qui me vient à l'esprit, là. Mais ils ont Krishna. Et s'ils ont à parler, ils vont parler de Krishna. Et Prabhupada parle de Krishna, puis les disciples de Prabhupada, ils ont Krishna encore. C'est la caractéristique des dévots de Krishna. C'est de parler de Krishna, penser à Krishna, parler de Krishna, glorifier Krishna. Tous les Vaishnavas, c'est ça. Parler de Krishna. Et les disciples des disciples, ainsi de suite, c'est la même chose. Ils ont Krishna en commun. C'est ça qui fait la beauté et l'harmonie entre les dévots, que ce soit d'une génération à une autre génération. Parce que l'intérêt, c'est Krishna. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il n'y a pas, je vois pas là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Alors, d'une génération à l'autre, c'est toujours Krishna qui est le maître, le Dieu suprême, et que les dévots veulent servir. C'est la grâce de Krishna. Alors, le Seigneur Chaitanya, quand il voulait bénir quelqu'un, qu'est-ce qu'il donnait?
Les saints noms.
Oui. Il donnait plus que les saints noms. Tu sais, les saints noms, c'est genre le... Si je te donne 1 $, les sous sont compris. Dans les dollars, les sous sont compris. Alors, si je te donne 10 $, pas besoin de parler des sous. Alors, Seigneur Chaitanya, lui, quand il voulait vraiment récompenser quelqu'un, puis en fait, le Seigneur Chaitanya voulait récompenser tout le monde, même s'ils étaient les plus déchus, qu'est-ce que le Seigneur Chaitanya donnait? On repose la question sous un autre angle. Qu'est-ce que le Seigneur Chaitanya est venu pour quoi faire?
Répandre l'amour pour Krishna.
Nous donner l'amour inconditionné pour Krishna.
Exactement, c'est ça la réponse. Quand le Seigneur Chaitanya voulait vraiment récompenser quelqu'un, il lui donnait l'amour de Dieu. Alors la personne était plus que récompensée parce qu'elle arrivait à vivre et à comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu peut lui donner. Alors la personne était comblée par la grâce du Seigneur Chaitanya. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur Chaitanya de donner l'amour de Dieu, qu'on appelle en sanskrit. Comment on dit ça, l'amour de Dieu en sanskrit?
Krishna
Prema.
Prema.
Krishna Prema.
Krishna Prema.
Alors, Prema, ça veut dire le pur amour de Dieu. Alors, le Seigneur Chaitanya s'est dit, il est Mahavadanyaya, ce qui veut dire, c'est la plus grande incarnation de Dieu, parce qu'il donne ce qu'aucune autre incarnation de Dieu a donné auparavant, c'est-à-dire Krishna Prema, le pur amour de Dieu. C'est l'incarnation de Krishna la plus, je sais pas comment dire en français, magnificent en anglais, la plus munificente.
Je sais pas le mot en français. La plus merveilleuse, mais c'est plus fort que merveilleuse.
Ouais, la plus...
Resplendissante.
Non. En tout cas, magnificent en anglais. Je pense que c'est munificente en français, le mot.
Merveilleux.
La plus généreuse, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oups.
Ce serait la plus splendide. sur avec la traduction directe.
Ah, mais c'est super, ça. La plus splendide incarnation
La
de
plus
Krishna.
majestueuse aussi.
Ouais. La plus magnanime.
Ah, c'est ça?
Ouais, magnanime.
Magnanime,
Ça
parfait.
veut dire tout ça aussi, magnanime.
Parfait.
Non. Plus magnanime, Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Alors, c'est Krishna lui-même. Alors, dans le nectar de dévotion, c'est expliqué que le service de dévotion, le pur service de dévotion, est très rare. Et c'est expliqué pourquoi. Parce que quand Krishna accorde à quelqu'un le pur service de dévotion, c'est Krishna lui-même qui se donne à cette personne-là. Alors, c'est si on a l'opportunité d'avoir reçu le service de dévotion, on peut s'estimer qu'on est une personne qui est très, très chanceuse, très, très fortunée, et ne pas gaspiller l'opportunité qui nous est offerte par la grâce de Krishna, par le maître spirituel authentique et l'association des dévots, les temples, etc., etc. Alors, ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est que, disons, si on parle d'un point de vue occidental, mettons, ISKCON en Occident, ben, il y a un temple à gauche et à droite dans les grandes villes. Mais il y a plus que ça, ISKCON. Il y a ISKCON en termes de lieu sacré, de lieu saint en Inde, que ça aussi, c'est dans la juridiction de ISKCON, même si légalement parlant, au niveau de la paperasse, c'est pas ISKCON qui est le propriétaire de tel temple ou tel temple, mais le lieu saint lui-même, il appartient pas à qui que ce soit, là. Il appartient à Krishna. Il appartient aux grandes autorités spirituelles qui ont fait que justement la grandeur de ces lieux saints-là. Alors, comme par exemple à Vrindavan, il y a des temples qui ont été érigés par les six Goswamis, les disciples directs du Seigneur Chaitanya. Alors, les dévots aujourd'hui peuvent aller visiter ces temples-là. Et ils vont visiter les temples justement établis par les disciples du Seigneur Chaitanya direct. Et ça, c'est complètement transcendantal. Et puis, c'est merveilleux d'aller à Vrindavan ou à Mayapur et visiter ces saints lieux-là et être imprégné de l'atmosphère. C'est le monde spirituel dans le monde matériel. Alors, faire la connexion avec Krishna, si les dévots sont capables de faire la connexion de tout avec Krishna, ils ne sont plus dans le monde matériel. Ils sont dans la mentalité Vaikuntha, la mentalité où Krishna, justement, est le bénéficiaire de tout ce qui existe, propriétaire, ami et propriétaire de tous les êtres vivants. Ça, c'est la grâce de Krishna, c'est la conscience de Krishna. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Oh, il en reste encore un petit peu. OK. Alors, on va lire un petit peu. On va lire un petit peu à la page 7 en bas. Autre réflexion sur le point 1.3. Virginie, s'il vous plaît.
Autre réflexion sur le point 1.3. Le point 1.3 mérite réflexion. Rationnellement parlant, nous divisons les spiritualistes en trois catégories: Gyakni, Yogi et Bhakta. Les Gyakni recherchent philosophiquement la vérité absolue. Il leur est même donné de pouvoir réaliser l'existence du Brahma Jyoti et de s'y fondre. Est-ce que ce chemin est facile d'accès pour eux? Certes pas, comme le confirme la Bhagavad Gita 14.27. Brahmanori pratishtataham amritashya vyaya shyasa cha sasvatashya cha dharmavashya dharmashya shukhi shukashyai shyai kantikashya cha. Brahmanaha du Brahmayoti impersonnel, hi certes, pratishtya le repos à âme je suis, amritashya de l'immortel, avyayashya de l'impérissable, cha aussi, svavatashya de l'éternel, cha et dharmashya de la constitution intrinsèque, shukashya du bonheur, Aikantakashya, ultime, cha aussi. Je suis la base du Brahman impersonnel, lequel est immortel, impérissable, éternel et constitue le principe même du bonheur ultime. Teneur et portée. Immortalité, éternité et bonheur constituent la nature du Brahman. Le Brahman représente la première étape de la réalisation spirituelle. Le Paramatma, l'âme suprême. La seconde est Bhagavan, la personne suprême, la réalisation ultime de la vérité absolue. La personne suprême englobe par conséquent le Brahman et le Paramatma. Nous avons vu au septième chapitre que le Seigneur féconde la nature matérielle, la manifestation de son énergie inférieure, en y injectant des fragments de l'énergie supérieure. C'est ainsi que l'élément spirituel se manifeste dans la nature matérielle. Lorsque l'être conditionné par la nature matérielle entreprend de cultiver le savoir spirituel, il dépasse cet état matériel et parvient graduellement jusqu'au concept du Brahman. Parce qu'il a atteint cette étape, la première dans la réalisation spirituelle, le spiritualiste a déjà dépassé le niveau matériel. Mais il n'a pas pour autant encore parfaitement réalisé le Brahman. Il pourra, s'il le désire, se maintenir à ce niveau, puis peu à peu s'élever pour réaliser le Paramatma, puis Bhagavan, Dieu la personne suprême. Les écritures védiques nous en donnent de nombreux exemples, comme celui des quatre Kumaras qui réalisèrent le Brahman, la conception impersonnelle de la vérité, ainsi, avant de s'élever graduellement jusqu'au service de dévotion.
Jai, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus?
Concernant les quatre Kumaras, c'est à eux que Brahma a donné en premier la mission de créer des êtres vivants, c'est ça?
Non.
Non? Je me trompe alors.
Attends une minute. Oui.
Ils ont refusé, je crois, et c'est
Ouais,
comme
ils ont
ça.
refusé. Et
Voilà, c'est
les
ça.
Kumaras sont aussi les dans la succession disciples qui sont après le Seigneur Brahma.
OK.
Alors, les Kumaras ont refusé, là. Alors, il a fallu que le Seigneur Brahma s'arrange avec d'autres, qu'on appelle les Prajapati.
Rajapati, oui.
C'est-à-dire ceux qui engendrent des êtres vivants. Alors, voilà. Alors, c'est ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup
Merci beaucoup.
de venir au cours. Et puis, là, je vais juste parler un petit peu du projet de Chaitanya Charitamrita. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous.
Hare
Ouais,
Krishna, Madame
merci beaucoup.
Ananda.
Hare
Merci, Hare
Krishna.
Krishna.
Allez, bon.
Dieu le vous bénisse.
Mercredi.
Au plaisir, Hare Krishna.
Hare
Allez,
Krishna.
allez, bon. Alors voilà. Je dis juste ce qui se passe et ce qui ne s'organise pas pour tout de suite, mais ça va finir par arriver. Alors là, j'ai terminé le volume 2 de Adilila et je me suis dit, je vais aller voir le volume 1 que j'ai fait. Et là, je m'aperçois que le volume 1 n'est pas vraiment finalisé. Il faut que je révise. mais il est tout fait, mais sujet à révision. Et ça, je suis en train de regarder ça. Et là, je me disais, ben, vu que c'est pas mal long, le premier volume de Adilila, je contemplais l'idée de partager ça avec vous autres, là, pour m'aider là-dedans. Alors, je vais regarder ça davantage et puis vous demander de travailler là-dedans. Et ça aiderait. Alors, les textes, tout ça, c'est mis en page, mais il faut regarder puis voir qu'est-ce qui pourrait clocher là-dedans. Il y a des petites choses qu'on peut trouver à gauche et à droite, mais dans l'ensemble, le travail est fait, là, grosso modo. Alors, je voulais juste vous dire ça. Qu'éventuellement, ça va finir par arriver de votre côté. Et c'est de la révision de texte, pratiquement parlant. Et j'ai commencé ça, et j'ai vu que, ça peut pas être publié dans l'état actuel, mais il en manque pas beaucoup pour arriver à faire un produit qui se respecte, qui est bien. Alors, c'est ça. Alors, on a cet autre dévot qui, lui, est dans le Madhyalila. Là, j'ai pas eu de nouvelles de lui tout dernièrement. Je sais pas si ça avance à son goût ou pas, là. Mais on peut contempler l'idée de réviser le Adilila volume 1. Et puis déjà là, ça va être un bon travail. Il y a à peu près, mettons, 750 pages du livre à se taper. Et moi, je suis arrivé à la page 15. On en a 750 seulement à se taper. Et puis, voilà. Alors, je vais... Pardon?
Non, je disais, c'est une grâce, de toute façon, que Krishna nous fait encore, puisque on est en contact direct avec les écritures. Donc, c'est encore, c'est merveilleux, en fait, de se, entre guillemets, taper ce genre d'activité.
Oui, c'est merveilleux. C'est le nectar, à 100%, même à 200%, si on peut dire comme ça. Et, il y a un verset, justement, qui dit que quiconque écoute le Chaitanya Charitamrita va atteindre l'amour de Dieu. Alors, c'est pas non différent du Seigneur Chaitanya. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça? Alors, c'est extra, là. On est, comme on dit en québécois, on est aux oiseaux. C'est super. Alors, je vais regarder ça. Et puis, je vais faire quelque chose pour laisser savoir. Et puis, bientôt, très bientôt. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez, là. Mais c'est pas un travail difficile, mais il faut y aller ligne par ligne. Moi, c'est ce que je fais. Je vais ligne par ligne. Je relis à l'écran et je regarde. Bon, petit commentaire aussi. Je prends pour acquis que vous n'avez pas les livres du Chaitanya Charitamrita, c'est ça, hein?
Moi, non.
Moi, je les ai. J'ai les sept.
Ah,
j'ai
OK.
Pas le dernier. Mais
OK.
En fait, ils sont en France. Et là, on va partir bientôt. J'ai le premier chant, le premier que j'ai
premier
ramené, le
premier
livre,
volume,
le premier volume.
Là.
Voilà, je l'ai là, ici, en Guadeloupe. Parce que c'est énorme, donc j'ai pas pu tout ramener d'un seul coup. Donc je ramène au fur et à mesure les livres. Donc je vais ramener la collection complète du premier au, c'est trois je crois, Yann, ou trois ou quatre. Non, c'est trois. La Dilila.
À Dilila, il y en a deux seulement.
D'accord.
Il y a deux volumes.
D'accord.
Madhyalila, il y en a quatre. Oui, c'est ça. Et le Antialila, il y en a deux.
OK.
Alors, avoir les livres, c'est sûr que ça va aider parce que c'est moins fatigant pour les yeux. Mais cependant, j'ai tous ces livres-là sous forme de scan. Je les ai tous scannés, les pages. Alors, pour le Ananda, je
Parfait.
fournis tout.
Merci, Pablo.
Alors,
Merci.
c'est de vérifier. Et parfois, je me rends compte, il y a des erreurs dans ces livres-là en français. Et comme je vous donne un exemple
Oui.
qui est évident. À un moment donné, parce que j'ai tout ça, j'ai ça en texte numérisé de mon côté. Et là, je vois, il y a un verset. Le verset comme tel est constitué de deux lignes. Et j'ai seulement la dernière ligne. Il manque la ligne du dessus. Et là, je me dis, ben, peut-être le scan a manqué quelque chose. Je sais pas. Je vais aller voir. Je vais voir dans le livre lui-même. Et là, je vois que dans le livre lui-même, il manque la première ligne. Alors là, je me suis dit, faut arranger ça, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Alors, je l'ai trouvé. En tout cas, j'ai résolu le problème. Je l'ai eu, la ligne qui manquait. Et, c'est aussi simple que ça, là. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent arriver, des petites imperfections. Et là, ben, comme on dit, dans le doute, s'abstenir, mais là, dans le doute, disons, on pourrait dire prévenir s'il y a une difficulté, puis on résout le problème.
Parfait.
Si problème il y a, mais c'est pas majeur, mais c'est bien de s'occuper au fur et à mesure que ça arrive. Pas laisser ça traîner parce que c'est trop volumineux, là. Disons, on le fait autant que possible du premier coup. Le faire bien. Et puis, voilà. Ça va être, en bout de ligne, c'est un livre de référence pour les dévots. Pour les dévots assemblés, parce que ils l'ont en anglais. Mais Dieu sait pourquoi. Ce n'est pas disponible en français. Alors là, on se dit, ben, on va le mettre en français.
En fait, la problématique, pour en avoir discuté avec un dévot du Temple de Paris, un prabhu du Temple de Paris, c'est qu'en fait, le BBT ne peut pas, il n'y avait pas cette demande au niveau de l'imprimerie. Il y a pas beaucoup comme ça m'a été dit, hein, il n'y a pas beaucoup de dévots français, francophones par rapport à d'autres. À d'autres langues et à d'autres nationalités. Donc, il y a eu un tirage il y a longtemps, mais ils n'ont pas refait en fait.
Oui, et en plus, moi, ce que j'ai lu, c'est que le Chaitanya Charitamrita, il l'avait en France et les livres étaient dans le sous-sol à la Nouvelle-Mayapur, puis ça commençait à pourrir même.
Mais les livres que j'ai achetés, moi, je pense qu'ils viennent de là parce qu'ils sentent le moisi, c'est incroyable.
C'est ça. Alors, ça, c'est malheureux. Mais on va prendre le taureau par les cornes, puis on va le faire numérique, puis après faire de quoi pour que les dévots puissent l'avoir en format numérique.
Soit
Et
accessible,
ça,
très
il n'y a
bien.
pas d'excuse, là. Il n'y a pas d'excuse de dire, ah, c'est un petit marché, je m'excuse, là, le petit marché, c'est 300 millions, je pense, de francophones, mettons, à travers l'Afrique, à travers le Canada, la France, etc. C'est pas un petit marché, ça. C'est aussi gros presque que les États-Unis tout ensemble, là, au niveau de la francophonie. Quand même, le français, c'est la troisième ou la quatrième langue en importance dans le monde. Alors, c'est pas rien, là. C'est pas du swahili ou ourdou, je sais pas quoi, là, de d'autres
Oui.
langues. Ah, c'est le français. Le français, c'est une langue qui est très, très riche, en valeurs culturelles. Alors, voilà. Alors, on va faire ça.
Parfait.
Et puis, c'est ça. Je vais faire un package. Excusez-moi, anglais, là. Et puis, je vais vous acheminer ça. Et puis, je vous demanderai de faire de la révision. Et puis, moindrement que des questions ou des doutes, s'il vous plaît, prenez en note et refilez-moi les notes en question pour qu'on,
Les coquilles.
oui,
Parfait.
qu'on corrige au fur et à mesure que ça évolue. Et puis, en mettant ça en branle, je vais voir comment ça va aller, là, mais je prends pour acquis que ça devrait bien aller. Et moi, de mon côté, je vais m'attaquer aux deux derniers volumes, le Antialila. Fait que l'autre dévot, il s'appelle Pradyumna. Lui, moi, je lui ai dit, Madhyalila, c'est à toi. Et nous, on va faire Adilila plus Antialila. Alors, moitié-moitié. Et lui aussi, il me dit qu'il y a deux personnes qui pourront l'aider à faire de la correction d'épreuves. Il m'a
Parfait.
pas dit c'est qui ces personnes-là, mais en tout cas, je prends pour acquis qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Mais il est très désireux de voir la fin du projet cet été. Mais ça, j'en doute fort, là, que, hey, quand même.
C'est le mois prochain.
C'est ça, là, on est rendu au mois de mai. Donc,
L'été, c'est le 21 juin.
oui, c'est ça. Alors, on verra bien si ça se passe à merveille comme ça, mais j'en doute. Mais on va faire notre effort de guerre pour faire le mieux qu'on peut. Moi, je dis, il n'y a pas d'échéance précise. On le fait selon nos capacités et puis ça va être fini en temps et lieu. Comme ça, par la grâce de Krishna. Et voilà. Alors, je vais préparer ça et vous allez recevoir quelque chose très prochainement.
Très bien.
Ça va venir de votre côté.
Parfait. Merci
Voilà.
beaucoup, Prabhu.
Alors, vous allez être dans le nectar.
Ah oui.
Voilà.
Allez, bon.
Alors,
Merci
moi,
beaucoup, Prabhu. Merci.
merci, ça me fait plaisir. Hare Krishna.
Hare Krishna. À
Merci.
mercredi.
Ouais, à mercredi, et puis avant, probablement, je vais vous donner signe de vie, là,
Ah oui, parfait.
avec ce projet-là. Je vais regarder ça en particulier demain, dimanche. En tout cas, je vais me concentrer à ça, puis ça va venir bien, très bientôt chez vous.
Parfait.
OK.
Merci.
Merci
Haribo.
beaucoup. Hare
Haribo.
Krishna.
Hare
Hare
Krishna. À
Krishna.
mercredi,
Allez.
si Dieu le
À
veut.
mercredi, allez bon.
Passez un bon
Haribo.
temps. Hare
Jai,
Krishna.
Hare Krishna.
Jai.
Jai, Hare bon.
Haribo.
Jai ho. Et voilà.
Et voilà.
Jai.